Avant de commencer l'épisode, je dois vous parler d'un rendez-vous immanquable dans l'écosystème SaaS. Le 25 et le 26 septembre prochain, en plein cœur de Paris à Station F, c'est le retour de B2B Rocks, l'événement incontournable du SaaS B2B. Et je vais vous donner trois bonnes raisons de vous y rendre. La première, c'est que vous allez rencontrer une communauté mondiale qui regroupe plus de 3000 participants de l'écosystème SaaS, avec des fondateurs, des C-level, mais aussi des VC. La deuxième, c'est qu'ils ont réuni des speakers de classe mondiale venant des plus belles startups comme Asana, Notion, Figma, Aircall, Paddle ou encore YouSign pour parler d'intelligence artificielle, de marketing, de génération de revenus, mais aussi de bootstrapping. La troisième, c'est que vous allez pouvoir connecter avec vos pairs et créer des relations durables grâce à l'atmosphère unique de B2B Rocks. Mais j'ai surtout une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai négocié moins 50% sur le prix des billets. Alors pour en profiter, c'est très simple, rendez-vous sur le site de B2B Rocks, b2brocks.co et utilisez le code SASCLUB50, tout en majuscule et tout attaché, pour bénéficier de moins 50% sur l'achat de vos billets. Bref, c'est une super affaire pour un super événement. Et une dernière info avant de vous laisser avec l'épisode du jour, plus vous attendez, plus les prix des places augmentent, alors ne tardez pas, rendez-vous sur le site b2brocks.co pour bénéficier de moins 50% sur vos billets. Bon épisode. Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apportez sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute! Et bienvenue au club. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode hors série de SaaS Club. Et aujourd'hui, je reçois Florian, le VP Growth chez Talent.io. Salut Florian.
Salut Eric.
Tu vas bien ?
Ça va, super. Et toi ?
Impec, ça fait une vingtaine de minutes qu'on enregistre. Et je crois qu'on devait enregistrer aussi depuis un petit moment. Donc très content de faire cet épisode avec toi. Aujourd'hui, on va parler de community building. Alors, petit disclaimer, hein, Talent, c'est pas exactement un SaaS, et tu me l'avais dit. Mais je t'ai sollicité pour deux raisons déjà, parce que tu as eu des super résultats sur le sujet. Et tu vas nous en parler juste après. Et surtout, c'est que le community building commence à prendre un peu d'épaisseur chez les SaaS. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mis en place ce genre de logique en France. Donc voilà, je fais une petite exception. Et au menu de l'épisode du jour, tu nous as préparé plein de bonnes choses. Je vais en teaser quelques-unes. Tu vas nous dire pourquoi c'est un mode de développement qui est intéressant à développer, ton retour d'expérience étape par étape, un framework à suivre pour passer à l'action, ton process de recherche utilisateur et bien d'autres. Donc voilà, je sens que ça va être une pépite, mais avant ça, je te laisse te présenter et pitcher Talent à nos auditeurs.
Écoute, merci Eric. Effectivement, je t'avais dit qu'on n'était pas un SaaS. On a essayé de l'être à un moment, mais on est effectivement une marketplace de recrutement inversé. Historiquement, principalement sur des métiers tech, donc dev, data, produit. Et depuis un petit mois, on a lancé une offre pour les sales. L'idée, c'est que les sociétés puissent se contacter et contacter en direct des candidats qui sont préqualifiés à la main par un talent advocate et qui sont en recherche active d'un nouveau job. Voilà. Moi, je suis chez Talent depuis maintenant 6 ans et j'ai fait un peu tous les parcours de sur les métiers grosses chez Talent, de contributeur individuel sur de l'outbound jusqu'à driver, avoir la chance de driver effectivement une approche média, une approche community building depuis 2 ans.
On va revenir dessus, franchement c'est super intéressant. On s'était parlé la première fois, je crois que c'était en octobre ou novembre dernier, et donc depuis t'as eu des résultats stratosphériques. Mais peut-être avant de nous dire pourquoi il faut s'y intéresser, est-ce qu'on pourrait redéfinir le terme de community building? Qu'est-ce qui se cache derrière?
Bien sûr. En fait, pour faire super simple, le community building, c'est que tu vas construire ta stratégie avec tes, avec les people, donc avec les gens que tu vas cibler. Et d'ailleurs, que ce soit une approche avec avec tes employés quand t'es le patron ou quand t'es au marketing et que tu veux travailler avec avec tes cibles. En fait, tu vas vraiment construire tes stratégies avec les personnes que tu veux cibler.
Ok. Et vous, vous avez mis en place ça dans quel contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous avez vous vous êtes tourné vers du community building?
Ben ça, ça va parler beaucoup, je pense, aux personnes qui sont dans le SaaS. Nous, on a un sujet, donc on fait du recrutement. C'est gratuit pour les candidats, payant pour les recruteurs. Pour nous, la valeur, c'est d'attirer les bons candidats. Le problème, c'est que tu changes à peu près tous les deux ans. Donc, c'est difficile d'avoir des points de contact qui sont réguliers pour nous. Mais surtout, on est sur un marché qui est ultra concurrentiel. Aujourd'hui, pour trouver un boulot, tu as plein de plateformes qui existent. Et pour nous, l'idée de, un, créer de la valeur en continu, et quand ça, quand le jour tu changes de boulot, tu penses à nous. Et deux, pour pouvoir se différencier, on a considéré cette approche community building, qui est au départ une approche media building et ensuite community building. Donc l'idée, c'était vraiment créer une communauté pour pouvoir créer notre roadmap, notre contenu avec la communauté, pour la communauté, pour pouvoir se différencier sur le long terme.
Et ça, tu t'es inspiré de sans spoiler le framework tout de suite, mais tu t'es inspiré de boîtes qui l'avaient déjà mis en place, et si oui, lesquelles?
Bon, franchement, on va pas se mentir, moi je suis un grand fan de Notion. Si j'avais qu'une seule société à mentionner, ce serait celle-là, qui a vraiment fait un gros effort de community building. Notion, ils ont fait construire, tu vois, leur template par les utilisateurs. Et donc là, c'est vraiment une compréhension du chiffre de je crée des templates pour les utilisateurs. Donc je suis Notion, je crée des templates pour les utilisateurs et je fais créer des templates par mes utilisateurs et je les mets en valeur. Là, c'est un vrai exemple de community, d'effort de community building.
Ouais, ils ont été très très forts. Et du coup, ça veut dire que on peut concilier une approche product-led avec une approche community-led, c'est ça, si je comprends bien?
D'ailleurs, ça marche très très bien ensemble. Ça marche très très bien ensemble parce que tu vas récupérer un maximum de feedback de tes utilisateurs pour pouvoir ensuite les intégrer dans ton produit sans avoir besoin de passer par un long cycle de sales et vraiment avoir une approche product-led très forte. D'ailleurs, on en parle un petit peu plus tard, je crois.
Je spoile pas. très bien, donc tu t'es inspiré de Notion, mais j'imagine que tu as vu aussi ce qu'avaient fait des Figma et autres. Tu t'es notamment aussi inspiré d'un framework, il me semble. Tu m'avais parlé du framework Spaces. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En quoi ça consiste? Comment il se décompose?
Yes, absolument. En fait, le Spaces, c'est plutôt un modèle qui va te permettre de qualifier tes différentes communautés. Tout à l'heure, je te disais, tu peux avoir des communautés avec tes employés, tu peux avoir tes communautés avec tes cibles marketing, tes cibles commerciales. Spaces, c'est vraiment comment tu vas qualifier tes différentes communautés. C'est le modèle, c'est le patron de CMX qui a fait ça. C'est la plus grande communauté sur les communautés. Donc, si tu veux apprendre sur les communautés, c'est bien de rejoindre cette communauté-là. En gros,
c'est les poupées russes là.
Exactement. En gros, t'as plusieurs façons. Donc, typiquement, tu vas avoir les premiers, ça va être les supports. L'idée, ça va être typiquement ton besoin business, ça va être de réduire les coûts de support. Webflow fait ça. T'as tous les forums. En fait, t'as les personnes qui sont bons sur Webflow vont commenter, répondre aux questions des autres personnes qui vont aussi utiliser Webflow. D'accord? Donc, au lieu de que toi, tu aies besoin Webflow de payer des personnes, d'onboarder des salariés, en fait, ta communauté de personnes qui utilisent ton produit vont aller commenter pour aider la partie communauté. Donc là, c'est la partie support, c'est le S. Ensuite, tu as le P, c'est Community Led Product. Et là, l'idée, c'est, en fait, c'est typiquement dans ce que tu disais, le lien entre Product Led Growth et Community Led Growth, c'est que tu vas aller et faire émerger de nouvelles idées et tester ces idées avec cette communauté. C'est souvent des plus petites communautés, un peu l'idée de bêta-testeur, même quand ton produit est développé, pour aller tester de nouvelles idées. Tu as la logique d'acquisition, ça c'est la logique sur laquelle nous on a construit majoritairement notre modèle, c'est en gros d'avoir des prospects qui vont discuter entre eux, qui vont échanger entre eux. Donc des personnes qui vont percevoir la valeur de ton produit ou de ton service, qui vont échanger avec des personnes qui ne l'ont pas encore perçu. Tu as aussi ces formats-là avec les formats webinars, tu vois, tu vas prendre un client qui a qui a été super, qui a eu beaucoup de succès avec ta solution, mm. et dire bah tiens, on va créer un use case ensemble. Mm. Ça tu vois souvent sur des produits un peu complexes.
Ouais.
Data par exemple, Segment fait ça. Segment va connecter de la data. C'est compliqué à comprendre. Et ben d'avoir un client qui va expliquer son cas, tu te dis ah ok, je peux me projeter, etc. Donc ça, c'est tu vois, ils utilisent leur communauté sur l'acquisition. Donc okay. à la partie de contribution. Et donc là, c'est typiquement ce que tu fais toi, Eric. Hein, c'est de tous venir nous faire parler ta super communauté pour créer du produit qui aura de la valeur pour nous, du coup ta communauté. Et forcément après, t'as l'engagement et le succès. Voilà.
Ok, super. Et je sais qu'on va parler des KPI plus tard, mais tu vois, est-ce que spécifiquement à ce framework, t'as des KPI précis pour chaque pilier à piloter?
Bah en fait, ça va dépendre du coup de ton objectif business au départ. Okay. Typiquement, le S de support, bah tu vas vouloir diminuer ton coût de structure du support. Si je m'arrête que sur celui-là, parce que sinon on va en avoir plein, mais si on s'arrête que sur celui-là, à jour 1, tu as besoin de 2 personnes pour gérer ton support, tu as un coût de structure. Si à un moment de ton scale, eh ben en fait si ton coût de structure là il continue d'augmenter, en fait t'es pas en train de scaler, t'es pas en train de faire plus de revenus et de gagner en économie d'échelle. Alors que si t'as une communauté, en fait tu peux continuer à avoir ces 2 personnes là qui vont faire un peu de la s'assurer que la communauté réponde bien correctement aux questions. Mais derrière, c'est la communauté qui va y répondre. Ton coût de support va rester fixe là où, du coup, ton revenu va scaler.
Ok. Très, très bien. Je vois, du coup, et on va, tu vas nous expliquer plus tard comment est-ce que toi, en interne, justement, t'as géré cette partie-là. Parce qu'évidemment, il faut quand même un minimum d'humains derrière pour gérer des communautés. Et c'est d'ailleurs ce qui fait peur parfois aux boîtes. C'est-à-dire que, on n'a pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un pour gérer les communautés et animer tout ça. Pour ce qui est donc on a la théorie maintenant, le framework. Je comprends que c'est un framework sur lequel on va mettre l'accent sur un pilier plus qu'un autre, mais que ils sont tous aussi importants. Comment est-ce que tu t'y es pris pour développer la communauté? Comment est-ce qu'on crée cette communauté? Et peut-être juste avant, nous dire un petit peu ce que toi, tu as obtenu comme résultat, peut-être pour qu'on puisse se rendre compte du travail accompli.
Ouais, bien sûr. Donc nous, on a lancé donc au début un média, et ça va rejoindre un peu ce que je veux dire sur les 3 étapes pour créer ta communauté. On a lancé un média qui est une newsletter. On a aujourd'hui 90 000 subscribers sur la newsletter avec un taux d'ouverture de 50%. C'est là où c'est important, c'est que du coup, tu as 45 000 personnes qui te lisent toutes les 2 semaines sur des sujets qui sont assez spécifiques. La gestion de carrière pour les devs, c'est quand même assez spécifique. Avoir 45 000 personnes qui te lisent toutes les 2 semaines, c'est assez extraordinaire en termes de volume. Tu me demandais comment on l'a fait sur le framework. Et je vais revenir sur ce que tu as dit juste avant sur... souvent, les boîtes ont un peu peur d'investir, etc., etc. Il y a un premier truc qui est important, c'est que pour créer une communauté, il faut avoir des personnes qui sont passionnées par le sujet, qui sont en train de traiter dès le départ. C'est un peu une incompréhension en général, c'est de dire on va recruter un community manager qui va gérer les réseaux sociaux, et ça va nous permettre de créer une communauté. Eh ben non. Ça va permettre de répondre à des questions, peut-être, sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça qui va créer une communauté. La première chose... Le premier point qu'il va falloir faire, c'est de susciter l'étincelle. Il va falloir allumer le feu. Et pour allumer le feu, il faut que ce soit excitant, parce que ce que tu es en train de raconter, il faut que ce soit unique, et il faut qu'on sente que ça t'intéresse, ce sujet-là. Tu vois. Si c'est pas unique, que je peux le trouver sur Internet, ça, je n'ai aucun intérêt à vouloir investir du temps dans cette communauté. Donc la première chose, c'est de susciter l'étincelle. Et la deuxième chose ensuite, c'est d'alimenter ce feu-là, tu vois, donc vraiment, je dirais, balancer de l'essence sur le feu pour que l'étincelle prenne. Et à la fin, c'est surtout de passer le flambeau et donc de créer des leaders. C'est des 3 étapes importantes. Il y a d'autres étapes après pour aller encore plus loin. Nous, on est à cette étape-là aujourd'hui, de passer le flambeau, tu vois. Donc, on a fait la newsletter, on a vraiment suscité l'étincelle, allumé le feu. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de passer le flambeau et d'avoir des leaders qui sont plus chez talent.io, des leaders d'opinion qui vont créer du contenu, participer, et notamment avec des formats aujourd'hui de Q&A dans la newsletter. Demain, pourquoi pas avoir un espace qui vit online et physique pour la communauté.
D'ailleurs, je suis pas sûr. Hein, je regarde un peu ce que tu m'as préparé. Je suis pas sûr qu'on le mentionne derrière. Donc, je te pose la question maintenant. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes orienté vers une newsletter et pas, j'en sais rien, vers un groupe Facebook ou ce genre de choses? Pourquoi ce livrable, cette matérialisation de la communauté par la newsletter?
En fait, ce qui est super important, c'est qu'on a approché, cette réflexion autour de la communauté et du contenu avec une approche très produit. Je ne vais pas trop parler trop de framework, alors que les gens qui me connaissent savent que j'en parle beaucoup de framework, donc j'essaie d'éviter en général. Mais il y a un modèle qui s'appelle le job to be done, c'est vraiment tu essaies de comprendre en fait le job de ton produit. Donc on a vraiment approché ça de cette manière-là. Et quand on l'a fait, on a parlé avec beaucoup d'utilisateurs, enfin de potentiels utilisateurs, et notamment des devs qui étaient passés par Temple.io, des devs qui n'étaient pas passés par Temple.io. Et on s'est rendu compte que le format newsletter, c'était un format qui était ultra présent chez les devs, sur la lecture d'articles assez longs, précis, creusés, techniques. Et que ça arrivait tout de suite dans la boîte email, et que c'était quelque chose qui était vraiment commun chez les développeurs. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là.
Ok. Très clair. Ça marche. Bah écoute, je laisse nous dire un petit peu comment tu as navigué entre ces trois étapes. Comment est-ce que tu as mis en pratique justement ce susciter l'étincelle, alimenter le feu et passer le flambeau qui est en cours, si je comprends bien.
Absolument. Alors, du coup, pour susciter les étincelles, donc c'est vraiment de comprendre mais à qui tu vas parler, quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, comment tu vas faire que les gens se parlent. Et donc là, c'est vraiment de la recherche utilisateur au départ. Mm-hmm. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, nous, c'est que sur le marché, tu avais beaucoup d'offres sur des bouts de code, régler des soucis de code. Il y a des sites qui font ça très très bien. T'as des sites qui font de la curation de news sur les technologies, mais t'avais pas de médias ou de contenu sur la gestion de ta carrière. Pour la petite histoire, même on s'était posé la question à ce moment-là dans notre idée de croissance. Même avant ça, c'était de racheter un média en fait. Racheter un média. Et quand on a creusé, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Donc quand on a creusé avec des devs, on s'est rendu compte que si, il y avait un besoin. Donc l'idée, c'est tu définis ton audience, tu fais une liste de 40 personnes, tu vas parler avec tes cibles, et l'idée, c'est t'as tes conclusions. Et de ces conclusions-là, c'était 1, gérer sa carrière en tant que développeur, c'est stressant. Oui, je reçois beaucoup d'offres. Oui, je me fais chasser sur LinkedIn. Mais en fait, changer de boulot, c'est quelque chose qui arrive tous les 2, 3, 4 ans. C'est des vraies décisions qui sont stressantes pour le futur. Donc le problème, c'est pas de changer d'emploi, hein, c'est faire un choix éclairé sur ta carrière. Et Talentio, on marchait bien en tant que marque sur ce sujet-là. Il y avait pas, parce que tu peux pas te positionner sur un sujet de community si ta marque elle est pas du tout associée avec ce sujet-là, ou alors tes efforts ils vont être, il va falloir que tu fasses des gros efforts. Tu vois, Red Bull, ils ont des gros budgets marketing pour faire des pubs et des vidéos. Bon, nous on n'avait pas ce budget-là, tu vois. Donc, fallait quand même qu'on ait un sujet qui associe notre marque et qui vienne apporter de la brand equity. Voilà. Donc ça c'était le premier sujet. Ensuite c'était le deuxième sujet, c'est donc tu alimentes le feu. Et donc là en fait il faut
Je t'interromps là-dessus, juste pour bien comprendre. Donc, les 40 personnes que tu as définies, tu as fait un échantillon hétérogène de personnes que t'as chassé sur LinkedIn, où tu es justement parti, je sais pas, de tes clients ou des leads que vous aviez. Première question. Et deuxième question, qu'est-ce que tu leur dis pour avoir un peu de leur temps, tu vois, alors qu'ils sont, comme tu l'as dit, que ce soit pour des recruteurs ou autres, ils sont hyper sollicités.
Yes. La réflexion sur qui on a ciblé, c'était une réflexion business. Aujourd'hui, recruter un développeur senior, c'est compliqué. Donc, on a visé 40 développeurs seniors. Okay. Pour se dire quel est le problème de ces développeurs seniors. D'ailleurs, c'est intéressant que tu poses la question parce que un junior, ça va pas être vraiment sur les choix de carrière après 2-3 ans de carrière. Est-ce que je passe staff engineer ou manager? Or, ces questions-là, c'est des questions plutôt de senior. Donc c'est vrai que quand tu crées du contenu et que tu engages la communauté sur ces sujets-là, tu es plutôt sur des sujets de, t'as plutôt des seniors. Donc ça, c'était, on est parti du problème business et ensuite on a défini notre cible. Et tu serais assez étonné de les gens adorent parler d'eux, tu vois. Bon, enfin, en même temps, je pense que t'es pas trop étonné parce que t'as plein d'invités qui viennent sur le podcast. Les gens adorent parler d'eux, de ce qu'ils font. Et c'est pas si compliqué de entre guillemets convaincre des personnes de d'expliquer quels sont leurs problèmes quand tu leur en face tu leur dis voilà, nous on est en train de bosser sur par exemple une réflexion autour d'un média, autour d'une communauté, etc. Est-ce que vous voulez vous associer avec nous dans la réflexion pour ce projet? Et on est quand même sur une population, je dirais, qui est bienveillante, tu vois, les devs en général, et qui sont assez chauds sur ces sujets de communauté et de participer à des sujets de communauté. Ouais. Donc voilà, on leur a dit, on a été super clair. En gros, on est en recherche, on a envie de développer quelque chose qui a de la valeur pour vous. Est-ce que ça vous intéresse de discuter avec nous sur ce sujet? Ouais.
Donc, on vous vend rien, c'est juste pour justement créer du contenu qui va vous être utile pour la suite. À la rigueur, tu pitches même pas talent, enfin, c'est secondaire, quoi.
Oui, alors, on avait quand même le salarié report, qui était une vraie preuve de sérieux. Mm-hmm. On en a fait 3 ou 4 déjà des études des salaires, ouais. Basées sur tous les développeurs qui ont trouvé un boulot chez nous. Donc, c'est vrai que quand tu viens avec cette carte de visite-là, je pense que aussi ça t'ouvre des portes. Donc, je dirais, pour des personnes qui l'ont jamais fait, de commencer à sortir des premiers contenus à haute valeur ajoutée et ensuite de pouvoir aller creuser avec ta communauté, c'est des bons sujets. Ça, okay. C'est une bonne idée, je pense.
Ok, super. Super clair, justement, pour cette étape. La deuxième étape, comme tu l'as dit, c'est d'alimenter le feu. Comment est-ce que tu t'y es pris?
Là, c'est distribution à fond. En fait, et donc ça c'est aussi une des erreurs souvent que je vois, c'est de dire on a pris un community manager, il gère la communauté. Mm-hmm. Mais ta communauté, faut bien qu'elle sache qu'il y a une communauté. Ce dont on parle quand même du temps des gens, c'est-à-dire que t'as quand même des personnes qui vont allouer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à lire ton contenu, répondre aux Q&A des autres développeurs, etc. Une heure sur 24 heures dans une journée, c'est énorme. Mmh. Et tu te bats avec toutes les distractions possibles.
Netflix, le portable, Spotify.
Et là, t'es pas en compétition avec. C'est chaud hein, comme compétition. Donc là, tu te bats avec cette compétition. Donc, si tu ne fais pas d'efforts de distribution, les gens ne sauront pas que tu existes. Donc, c'est le premier truc, c'est vraiment tes efforts de distribution. Et là, il faut l'approcher comme nous, on l'a approché vraiment en mode growth. Listing d'expérience, listing de value proposition aussi. Enfin, on a vraiment testé la proposition de valeur de la communauté. Donc, listing d'expérience, listing de ta proposition de valeur, et ensuite tu runs tes expériences. Et ça veut aussi dire que t'as une équipe en face. Pas juste dire on va balancer des expériences. Ok, mais il faut quand même des personnes qui sont capables de le faire. Donc, il faut une vraie ambition, je dirais, au niveau leadership. Pour distribuer. Donc, tu distribues, donc nous, pardon, vas-y.
Ouais, non, je pense que t'allais y venir. J'allais dire, comment est-ce que t'as distribué, quel canot t'as utilisé?
Yes. Alors, nous, historiquement, on est super bons sur le paid. On avait bossé avec quelques agences qui avaient halluciné sur nos performances, donc c'était assez cool. Mais donc, on est bons sur le paid, donc on a utilisé le paid. On a vu un drop significatif de notre coût d'acquisition sign up sur Talent, c'est maintenant que tu dois trouver un job, à regarde, rejoins celle de la communauté, tu auras de la valeur. Et ensuite, les candidats devenaient visibles. On a vu un drop sur la différence entre MDR et ROI assez exceptionnel. Donc, paid. Pour la première fois, on avait des choses à dire en SEO. Donc, on a pu commencer à créer du contenu SEO. Pour la première fois, la presse s'est intéressée à nous. Parce que la presse, tu vas aller voir, tu leur dis, écoute, nous, on a une plateforme. Ils parlent de toi une fois. On l'a levé de fond. Puis après, au revoir. Là, tu leur dis, regardez, on a une étude des salaires, on a un outil qui permet de prendre des décisions sur de la carrière, on a des articles sur l'IA, etc. Bon, la presse, tout de suite, elle te relaie. Et un format qui, je pense, est un peu sous-estimé, c'est qu'on a fait de la outbound. On a reach des développeurs qui auraient été des développeurs qui ne répondaient pas avec de la outbound traditionnelle. on leur a partagé ce contenu-là. Ils se sont sign up à la newsletter, puis ont commencé à s'engager dans la communauté, et derrière deviennent des candidats visibles.
Train, tu me donnes envie d'en refaire de la outbound là pour SaaS Club. J'en avais fait un tout petit peu au début, et je saurais pas te dire si ça avait porté ses fruits. J'ai eu des retours et tout, mais tu sais, entre les personnes qui te disent ouais, je vais écouter, tu sais pas si elles le font vraiment. Toi, t'as un sign-up qui se matérialise, donc ça, voilà. Mais moi, j'ai une écoute, mais je sais pas si elle sera récurrente, je sais pas si c'est la même personne, etc. Mais ouais, tu me redonnes envie de tester ça.
Tu sais, tu pourrais avoir des petits formats où tu te dis, ah, tiens, je garde mes 100, 200 personnes un peu engagées avec le SaaS Club et repartager toutes les semaines ou toutes les deux semaines, tu vois, bah tiens, un nouvel épisode qui est sorti, à vous, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. Et toutes les personnes qui sont venues sur le SaaS Club, elles vont l'écouter, tu vois. C'est du light touch, mais je pense que ça a de la valeur.
Ouais.
Parce que souvent, on se dit, bah tiens, je fais de l'inbound, j'ai plus besoin de faire de l'outbound.
C'est faux. Ça se nourrit, hein. Franchement, ton outbound est meilleur avec l'inbound au final.
C'est, il y a pas de doute là.
Bon, super. Donc vous avez alimenté le feu comme ça. Vous continuez avec la même intensité qu'au début, ou aujourd'hui il y a certains canaux sur lesquels vous avez diminué un peu l'intensité?
Bon, c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'impact de nous, de la crise des recrutements, enfin de la crise des startups. On a eu une diminution de l'activité pour nous, donc forcément une diminution de l'ambition sur ces sujets-là, donc diminution des budgets. Donc on a un peu calmé sur la partie distribution, et c'est fou parce que ton contenu c'est toujours le même, ton engagement c'est toujours le même. Tu calmes la partie distribution, bah tout de suite tu vois que la partie distribution, bah ça se calme, tu vois. Ça se calme. Par contre le taux d'engagement est toujours le même, donc ça rassure. Mais je dirais que tes efforts de distribution couplés à du bouche à oreille sera toujours plus fort que simplement du bouche à oreille.
Ouais, complètement. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait quand même la transition avec le dernier pilier, c'est comment passer le flambeau. Donc ça aussi, pareil, ça permet de réduire les investissements en direct que vous pourriez faire pour justement amplifier un peu comme tu le disais, Notion et ses templates. Au final, c'est un peu une force commerciale gratuite qui fait la promo de ton contenu. Et ça, c'est un peu la prochaine étape dans un contexte où, en fait, comme tu l'as dit, les recrutements sont en baisse dans l'IT et du coup, les budgets aussi. Donc ouais, c'est là où tu en es aujourd'hui.
Complètement, complètement. Là, on est sur les modèles un peu de user-generated content. Donc là, t'as tes premiers lecteurs, tes premières personnes qui répondent au Q&A. Dans ces personnes-là, faut que tu identifies un peu des personnes qui vont avoir des choses à raconter, qui vont être vraiment vraiment pertinentes pour la communauté. Et là, tu vas empower ces personnes-là. Tu vois, dans les lecteurs, on avait le head of engineering Google France, directeur of engineering Deezer, un core contributeur Bitcoin. Ces personnes-là, il faut les identifier et il faut les empower. Alors, c'est marrant parce qu'au début, tu vois, avec des noms, ronflants comme ça, tu te dis, ben forcément, ces personnes-là, ils ont des trucs super intéressants à dire. Mais t'as quand même le syndrome de l'imposteur pour tout le monde. Non, mais moi, je sais pas si c'est très intéressant ce que je dis.
Ça, c'est je le vois même avec des CEO. Hein. C'est pareil. Hein. Ils ont plein de trucs à dire, mais ils sont toujours là à dire, mais est-ce que je vais être intéressant?
C'est fou. Et donc là, il faut que tu les empower. Hein. Faut que tu les fasses parler, tu les fasses écrire. Et en fait, tu te rends compte qu'une fois que t'as commencé à lancer la machine, ah bah ouais, en fait, je me suis rendu compte que tiens, ça marchait, les gens étaient intéressés, j'ai reçu des messages sur LinkedIn me remerciant de ma contribution. Ça renforce du coup le comportement de partager l'information. Et du coup, ben, ces personnes-là, elles ont de nouveau envie d'écrire. Et donc, c'est vraiment bien parce que derrière, tu peux créer des espèces de sous-communautés basées sur du coup les sentiments et ce que les personnes ont envie d'écrire. Exemple, Web3. Je pense pas qu'on s'y connaissait trop. On a d'ailleurs pas trop attaqué le sujet Web3. Et ben en fait, dans nos lecteurs, on a eu pas mal de demandes sur du Web3. Et en fait, une ancienne de Talent qui bossait chez une boîte qui s'appelle Multis, quand elle m'a dit ah, ce serait peut-être pas mal qu'on écrive sur du Web3, je dis ah parfait, c'est exactement un sujet qu'on est en train d'entendre de la communauté. Prenons cette opportunité-là et écrivons ensemble du contenu sur Web3. Voilà. Donc tu vois, c'est là que tu commences à passer un peu le flambeau sur ta communauté, et je trouve que c'est là où ça devient le plus puissant.
Il y a, c'est, est-ce que j'ai une question qui m'est venue, mais entre-temps, j'en avais une de prévue. Est-ce que tu mets en place des incentives particuliers vis-à-vis de ces créateurs, de ces power users, j'allais dire, mais ils n'utilisent pas forcément Talent. Mais est-ce que auprès de ces membres-là, tu mets un système d'incentives particulier, ou est-ce que le simple fait d'être, je dirais, remercié par la communauté, de recevoir des messages, suffit à enclencher la mécanique et à la faire perdurer?
À l'enclencher, en tout cas, suffit. À la faire perdurer, je pourrais peut-être te dire dans 6 mois ou dans 1 an. Mais en tout cas, on commence à avoir des modèles là maintenant de physique. Tu vois, carrément, cette communauté elle devient physique avec les CTO lunch. Il y a des choses qui se passent aussi à des niveaux de leadership qui deviennent physiques. Et ça, c'est assez exceptionnel. Des CTO qui veulent parler à des CTO lunch, à des CTO after work, etc. Donc, je crois que pour l'instant, le fait d'être remercié par la communauté suffit. C'est des choses que, peut-être avec un point de vue à l'époque plus commercial, je me disais, mais non, mais forcément, il va falloir payer ces gens-là, il va falloir avoir un reward monétaire. Et pour l'instant, il n'y a pas besoin. Voilà. Je pense que pour aller plus loin, une stratégie un peu de merch un peu ambitieuse, basée sur un peu une gamification, tu vois, un peu du merch sympa, parce que quand t'as atteint des paliers de contribution, ça pourrait être vachement cool à faire.
Okay. Voilà. Et là, t'as parlé des CTO lunch. Comment est-ce que vous est venue l'idée? Est-ce que c'est la communauté qui a push cette initiative? Ou est-ce que c'est une bonne pratique que vous avez vue ailleurs?
En fait, c'est venu de discussion avec du coup les contributeurs qui écrivaient. Où un des sujets qui était revenu, c'était de dire, mais tu vois, moi, par exemple, je sais pas aujourd'hui où on se situe sur le sujet du remote. Ça fait 3 ans qu'il y a eu le Covid. Aujourd'hui, est-ce que c'est bien de dire à mes équipes de revenir au bureau ou pas? Comment ça se passe? Et on a commencé à avoir ces questions-là qui ont émergé. Et aussi, j'ai pas de d'espace physique pour pouvoir échanger avec mes pairs. Et là, direct, on a créé CTO Lunch. Donc, tu vois, on a créé une branche un peu leadership de cette communauté de dev, au départ. Donc, je dirais que ça vient de la communauté. Ouais.
C'est hyper intéressant. Et c'est marrant parce qu'au final, tu vois, vous êtes parti sur un format de newsletter, là où sur des approches communautaires, on penserait spontanément, comme je te le disais un peu avant, à des groupes pour que les gens puissent échanger entre eux, s'aider, poser des questions, etc. Et au final, aujourd'hui, tu as eu la première étape qui est la newsletter, puis maintenant le format un peu physique où les gens ils peuvent vraiment connecter entre eux. Donc c'est marrant de voir que en fait il y a pas de t'es pas obligé de passer par la création d'une communauté tu vois où comme je le disais avant aussi ça demande de la gestion humaine tu vois d'animer de favoriser l'émulation donc c'est assez intéressant comme histoire.
Ben, en fait si tu veux même moi j'étais contre l'idée de faire un groupe. Parce que je me suis toujours dit, mais moi, tu me mets dans un groupe, et puis même quand je parlais du coup avec nos devs, là, c'est, mais je te mets dans un groupe, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Et c'est vrai que ça faisait un peu, tu te retrouves dans une pièce, tu sais pas quoi te dire, et tu sais pas quels sont les sujets que tu peux aborder, tu vois. Et carrément, en fait, on a lancé un modèle de Q&A, enfin, de questions-réponses, en fait, dans la communauté. Et ce qu'on a fait, c'est que c'est anonyme. Parce que la gestion de carrière, c'est difficile de dire moi c'est Eric, je travaille chez talent.io, je suis payé X. Est-ce que vous pensez que je suis bien payé?
C'est clair. Il n'y a personne qui va engager là.
Enfin, c'est un petit monde quand même, donc il est payé tant. Mon boss, franchement, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis t'as le boss qui est dans la communauté. Bon bah tu peux plus poser tes questions de carrière. Comme ça, tu vois. Donc, on a fait un Q&A anonyme et on a eu un nombre de réponses incroyables. C'est-à-dire que on est à plus de 1000 personnes qui répondent aux questions de manière régulière. 1000, mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ben, posez votre $1 million question. Mmh. On en prend une, deux ou trois. Et en fait, cette question-là, on la repose à la commu et du coup, il y répond. Et la stack, elle est super simple. Hein. C'est un typeform et un typeform. Voilà. Et des emails.
Simple, efficace. Ouais. On va revenir sur justement la stack et les KPI juste après. Justement, là, sur cette communauté que vous avez montée, c'est quoi les moyens humains que vous avez mis en place pour justement dérouler cette stratégie? Combien est-ce que vous êtes? C'est quel type de personne? Est-ce que justement, comme tu l'as dit, il y a quelqu'un qui fait uniquement du community management, ou est-ce que alors c'est plutôt des personnes qui vont être un peu touche à tout? Enfin voilà, je suis curieux que tu nous lèves un petit peu le capot là-dessus.
Bien sûr. Nous, on a une culture, en tout cas une volonté d'avoir des full stack marketeurs, avec vraiment une spécialisation. Donc, on peut un peu bouger sur tous les sujets. Tu vois, par exemple, le gars qui crée le contenu chez nous, donc Cyril. Je ne vais pas trop dire son nom, parce que sinon tout le monde va aller sur son LinkedIn pour le chasser. c'est Cyril Moultaka, c'est trop fort. et tu vois, il a aussi pas bossé sur des sujets un peu de paye, un peu de distribution, etc. Bon. Mm-hmm. Typiquement, sa force c'est sur le contenu, donc il se concentre sur le contenu, mais donc on a ce côté un peu touche à tout dans l'équipe. Donc on a Cyril qui va vraiment gérer la partie production. Mm-hmm. On a une équipe de freelance qui sont des journalistes, hein, qui vont prendre le temps de discuter avec du coup les différentes personnes. Faut savoir qu'on l'a lancé en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au UK. Donc on a des journalistes dans chacun des pays.
Vous n'avez pas ça en tête?
Ouais, ça fait un peu de boulot. Okay. Il y a Slimane qui va gérer toute la partie ligne édito, proposition de valeur, recherche. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on parle beaucoup, on continue à parler avec nos utilisateurs. Donc, on a vraiment, tu vois, la strat, la partie exécution contenu. Cyril gère la partie Q&A aussi, donc ça fait mm-hmm. 2 personnes. Et après, le reste, c'est de la distrib. Donc, on avait une personne sur la partie paid ads, Angelica, qui gérait toute la partie distribution paid. On avait une personne sur la partie outbound qui, c'était une petite partie de son boulot, hein, ouais. C'est vraiment la partie opération gross, et une personne sur la partie du coup influence et relations presse.
Ok, voilà. Donc tu avais 2 personnes in-house côté production
et 3 en distrib.
Ouais. Plus après le pool de journalistes à côté pour la rédaction du contenu.
Exactement. Et on avait une personne qui travaillait sur la partie un peu landing page, connexion des outils, etc. Mais tu peux imaginer que ça fait 3 personnes sur la partie distrib.
Ok, très bien. Et super, super intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la stack d'outils qui permet de déployer tout ça de votre côté?
On avait réfléchi à Substack. Ouais. La recommandation de Substack est assez dingue. Mm. Mais comme on l'a lancé dans plusieurs pays, dans plusieurs langues, il n'y avait pas cette fonctionnalité.
Tu pouvais pas avoir du multilingue.
Et surtout, on le fait, c'est pour générer du business, donc du revenu. Et il n'y a pas de connexion aujourd'hui entre Substack et des CRM. Mm. Donc on n'était pas capable de mesurer l'impact que notre contenu aurait sur le revenu. Donc on a choisi customer.io pour la partie okay. Emailing et du coup Typeform pour la partie question Q&A, mm-hmm. Webflow pour la partie landing et voilà.
Donc simple, hyper simple comme stack. Il y a pas de révolution et puis la partie t'as un community builder pour engager et t'es freelance, t'es traducteur et basta.
Exactement. Bon, il y a quelques makes, quelques Zapier forcément. Hein.
Ouais.
Mais sinon, voilà. Et puis après, t'as Spreadsheet ou Data Studio pour ton analyse de données. Mais c'est assez simple. Mais c'est différent que quand t'es créateur de contenu, tu vois, solopreneur. Mmh. Où là, je pense qu'un Substack est un peu plus adapté.
D'ailleurs, j'ai lancé la SaaS Letter il y a pas très longtemps. Tu me fais une passe des incroyable, c'est génial. C'était pas prévu, mais la SaaS Letter où en gros je vais partager des articles que j'ai pu croiser, des vidéos, des podcasts dans le domaine du SaaS. Donc c'est partie curation et également je vais partager des interviews écrites. Donc là il y a un playbook sur l'affiliation qui sera déjà disponible au moment où l'épisode sortira. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est SaaS Letter, Substack sur Google, ou alors vous allez sur mon profil LinkedIn. Voilà, je ferme la parenthèse promo, auto-promo. Tu disais que ta stack d'outils, elle a été choisie en fonction, enfin en cohérence avec tes objectifs business. Justement, quel KPI tu monitors juste pour justifier quelque part l'investissement en community building?
Avant de te parler des KPI, je me rends compte que j'ai rien à t'apprendre sur le community building, parce que quand tu nous parles de ta newsletter où tu vas faire venir des pros, enfin des experts pour venir écrire avec toi, là on sent bien que tu suscites l'étincelle, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu fais venir des personnes qui sont experts, donc c'est quelque chose qu'on trouvera pas ailleurs. Tu le communiques extrêmement bien ici, donc du coup tu mets l'huile sur le feu pour développer et faire ton acquisition, et peut-être qu'un jour tu auras des relais de croissance avec justement les personnes que tu as invitées. Donc je crois que toi aussi tu es un expert en community building.
Si je fais un tiers des résultats de Talent, je serai refait.
Écoute, sur les objectifs business, ce qu'on mesure, c'est les candidats visibles. Nous, ça a de la valeur pour Talent quand un recruteur vient se connecter, voit des candidats qui sont qualifiés, donc les candidats qui sont visibles. Parce que c'est une notion qui est importante, on rend pas tous les candidats visibles, on rend vraiment les candidats visibles quand on les a qualifiés, donc on qualifie sur l'expérience, les technologies.
Et visible, aussi, ça veut dire que c'est des gens qui sont ouverts à changer de poste.
Exactement. Et en fait, t'en as entre 100 et 200 nouveaux par semaine.
Ok.
Parce qu'en fait, t'es pas en recherche tout le temps de boulot. T'es en recherche pendant un mois. Donc, si t'es en recherche en avril, en mai, t'es plus visible par les recruteurs. Donc, c'est là-dessus qu'on va aller mesurer. Donc, c'est le nombre de candidats visibles. Et forcément, les candidats qui vont être placés. Voilà. C'est assez loin comme métrique, les candidats placés. Sachant qu'on est autour de 30 jours à peu près. Donc, nous, ce qu'on va aller mesurer, c'est l'adéquation entre l'offre et la demande. Et donc là, ça va être plutôt le nombre de demandes qu'il va y avoir de la part des recruteurs pour les candidats. Si dans notre contenu et dans notre newsletter, dans notre communauté, on engage avec par exemple des DevOps, en fait sur la marketplace, il n'y a pas besoin de DevOps, on est en train de se planter. Si on fait du Web3 mais qu'on n'a pas de clients Web3, on est en train de se planter.
Voilà. Ouais. Donc il y a vraiment une relation très étroite entre les sujets que vous traitez et de l'autre côté la demande qui peut y avoir sur la plateforme. Donc ça, c'est des objets, les KPI business. Est-ce que je sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous pouvez communiquer ouvertement ou si vous avez suffisamment de recul, mais est-ce que vous avez ressenti des impacts business assez notables depuis que vous avez mis en place cette approche?
Bah oui, en fait, ça représente un peu plus d'un tiers de notre acquisition aujourd'hui, de candidats.
Un tiers. Un tiers. Ok, énorme.
C'est ouais. Si on mesure un peu sur l'impact, on a un peu plus que 4 millions de revenus de ce format-là. Quand t'es capable d'investir sur un an de boulot pour, du coup, je te disais, donc 6 personnes, plus un peu de la prod, etc. Je pense que c'est un format qui est assez exceptionnel. Pourquoi ? Parce que depuis le début de l'année, donc je te disais, mais on a senti la crise, c'est plus compliqué, etc. Donc on diminue les budgets de distribution, mais ton audience, elle est là, elle est engagée, et on continue à avoir un flux de candidats qui sign up via la newsletter et la communauté qui est assez exceptionnel.
Super, super. Écoute, j'ai deux dernières questions pour clôturer l'interview. T'as dit qu'aujourd'hui, vous étiez dans une étape où fallait passer le flambeau. C'est quoi un peu vos pistes de réflexion là-dessus? Comment est-ce que vous pouvez faire mieux? Est-ce que tu peux nous partager quelques insights là-dessus?
Écoute, là, on est en train d'apprendre beaucoup avec les CTO lunch, les CTO after work. Nos pistes de réflexion, c'est plutôt des pistes de réflexion au niveau business. En passant le flambeau, tu peux t'éloigner d'un objectif business, à savoir que tu as des personnes qui sont très enclins à participer, à engager, etc. mais que ça peut aussi être un intérêt personnel. D'accord, donc t'as forcément les gens qui te écrivent, etc. Mais t'as aussi un intérêt personnel. Donc attention à pas à ce que ce soit, ça devienne pas un forum de communication de tes propres intérêts, et que ça reste lié à la marque Talen.io. Donc on a quand même cette réflexion autour de donner le flambeau, mais comment tu gardes un intérêt business pour la marque. Ça c'est un premier sujet. C'était quoi la deuxième question?
Non, pour moi, c'est. Je pense que pour une fois, j'ai pas posé deux questions en une.
Ouais, ok, ok. Alors, c'était plutôt ça la réflexion. Comment tu passes le flambeau. Donc, c'est ça la réflexion aujourd'hui. Et après, ça va être forcément comment t'orchestres toutes ces différentes prises de position de chacune des personnes et comment à l'échelle tu arrives à garder une expérience pour les prochaines personnes qui sera comme les premières personnes, assez exceptionnelle en termes de contenu et de réponse à tes questions. Je pense que ça va être nos vraies questions.
Super. Écoute, merci d'avoir partagé ça. Dernière question sur, j'avais parlé des erreurs à ne pas faire soit que tu as pu faire ou alors qui te semble, enfin voilà, les choses à éviter selon toi par rapport à ce que tu as pu observer aujourd'hui.
Pour moi, la principale erreur, c'est de tout réfléchir sans en oubliant la distribution. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment critique. Tu peux avoir la meilleure proposition de valeur, tu peux avoir le meilleur contenu, tu peux avoir des personnes engagées dès le départ. Si t'es incapable de distribuer cette proposition de valeur et cette communauté, voilà, tu vas avoir peu de volume et donc tu vas regretter cet investissement sur le long terme, voilà. Et donc arrêter de dire community management égale gérer les réponses sur Facebook et Twitter.
Ok. D'ailleurs, j'ai juste un truc là qui me vient en tête. Je te l'ai pas posé tout à l'heure sur le paid. Je suis curieux hein, parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui réfléchissent à mettre en place ce genre d'initiative ou alors qu'ils l'ont déjà fait. Au niveau du canal paid. Vous avez utilisé quel canal? Est-ce que ça a été du LinkedIn? Est-ce que ça a été du Meta? Est-ce qu'il y en a un qui a mieux fonctionné qu'un autre?
Yes. Alors du coup, ce que je te disais sur notre besoin business, il est assez précis sur plutôt les mid seniors. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des audiences sur LinkedIn. On a créé des lookalikes sur Meta, donc Facebook, Insta, basés sur ces audiences-là. Okay. Et on a testé un peu du Reddit et sur du Twitter, on a fait plutôt ceux qui nous suivaient et qui suivent des comptes de développeurs qui sont assez techniques pour considérer que ces personnes-là ont le niveau pour être visibles sur la plateforme.
Ok, super. Écoute, ça donne des bonnes pistes pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure l'épisode, un dernier conseil, quelque chose qu'on aurait oublié de dire pendant cet épisode-là?
Bon, deux choses. Votre communauté ou votre newsletter, c'est comme votre produit. Vous devez répondre à un problème. Donc, parlez avec vos utilisateurs à fond, à fond, à fond. Et surtout, mesurez l'impact du revenu. Vous n'avez pas besoin de dire que newsletter A ou newsletter B a généré du revenu. Les modèles d'attribution, c'est super compliqué. Mais en tout cas, mesurer vraiment la diff entre j'avais pas de newsletter, j'ai une newsletter. Est-ce que je vois une tendance positive sur mon revenu? Et c'est déjà pas mal pour justifier des investissements qui, je pense, valent le coup sur ce sujet-là.
Super. Écoute, merci beaucoup, Florent. C'était très cool d'avoir ton retour d'expérience. Pensez d'ailleurs à remercier Florian sur les réseaux. T'es présent sur LinkedIn. En tout cas, si vous avez des questions complémentaires et que vous voulez tout simplement le remercier pour tout le partage d'expérience, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Voilà.
Merci, Eric.
Merci, Florian. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, Si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.